Et voilà, on a juste entendu les accords de guitare.
De Steven Terr.
Steven Terr, voilà. Quelques accords. Donc, pour accueillir Jean-Hugo Pell. Jean-Hugo Pell, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous rejoindre. Aujourd'hui sort votre dernier roman aux éditions Payot Rivage, la collection Rivage Noir. Ce roman s'appelle Vostok. Je me trompe ou c'est le 13e?
Ouh, j'ai pas compté dernièrement. Ça doit peut-être faire ça.
Ah, moi, j'ai compté.
Non, mais il y a une réédition d'une première série, bon, alors on va dire 12.
On va dire 12, voilà. Alors en fait, le premier, si je ne m'abuse, en 83, Canine et Gun, vous partagiez la plume avec une autre personne. Et puis, allez, les titres qui m'ont marqué, moi, en Bernard, Chaton Trilogie, French Tabloïd, Réveiller le Président, les deux derniers. Aussi beaucoup de romans pour la jeunesse, en particulier chez Rouge Chafran, chez Syros, Collection Souris Noires et Rats Noirs. Altofeu, Hippon, et puis aussi, plus récemment, des scénarios de BD chez Casterman Rivage, soit de vos propres écrits, tirés d'une de vos nouvelles, soit d'un roman de Marc Bem. Voilà, il y en a d'autres bientôt, non, il me semble bien.
Normalement, il va y avoir un Pierre Signat qui s'appelle Carton Blême, que j'ai adapté, qui a été très très bien illustré par Boris Beuzelin. Normalement, c'est pour le mois de juin.
Voilà, donc aujourd'hui, 6 février, sort le numéro 900 chez Rivage Noir. Ça s'appelle Vostok. Et Vostok, en fait, dans ce roman, on n'en apprendra pas grand-chose. L'éphéméride, les températures, la météo. Vous nous citez quand même un petit peu l'endroit?
C'est un endroit très très étrange qui est quasiment au milieu de l'Antarctique, à 1000 kilomètres du pôle sud, où depuis 1957, les soviétiques, puis donc maintenant des russes, font des trous dans la glace, ils font des carottes, et ils étudient le climat. Et dernièrement, jusqu'à l'année dernière, ils avaient trouvé des bulles d'air avec de l'air de la Terre d'il y a 500 000 ans, et cette année, je crois qu'ils atteignent les 800 000 ans. Donc la météo est pas fichue de nous dire quel temps il fera demain, mais eux là-bas, ils savent quel temps il faisait il y a 800 000 ans.
Il y a 800 000 ans. Et quand même, record de température entre moins 80 et moins 90.
En ce moment, c'est l'été, il doit faire dans les moins 30, normalement.
C'est super. Donc malgré, grâce, à cause, je sais pas comment on va le dire, mais en fait, malgré le titre Vostok, tout roman se passe dans un territoire totalement différent, le territoire des Awazati, où règne, je cite, une sèche chaleur sableuse. Là, on passe au continent africain, un endroit inventé, mais en fait qui en résume pas mal d'autres, finalement.
C'est un territoire un peu bizarre que j'ai eu un mal de chien à situer sur la carte. Ça, faut être honnête, un petit peu comme je l'ai fait dans le Piranha Matador, les aventures amazoniennes, où je voulais pas que ça appartienne trop précisément à un pays bien précis, justement. Et donc là, j'ai regardé la carte, il me fallait le bord de mer, du désert, de la chaleur, donc c'est au sud, c'est carrément même à l'ouest du Grand Sud, comme j'aime à dire.
Oui, et puis c'est aussi une métaphore de pas mal d'endroits à qui dans lequel il s'est passé des choses qu'on va décrire dans le roman. Donc les Awazati, par contre, ça c'est complètement inventé, cette tribu. Ils ont depuis longtemps été chassés de leurs terres par un consortium, lui aussi inventé, pourtant tout à fait réaliste. Alors, le consortium, je vais vous laisser quand même dire le nom parce que, donc c'est le premier mot c'est métal, et puis ensuite il y a deux lettres qui sont d'abord un I, d'abord un K, fallait oser, vous pouvez citer le nom de cette firme?
Ça vous donne Metal Ica.
Voilà. Donc le roman d'ailleurs est truffé de très très nombreuses de références et clins d'œil comme ça à la musique, au cinéma et à plein de choses que vous aimez et qu'on a retrouvées parfois dans vos livres précédents. Et donc cette firme Metallica extrait des terres rares. Et en gros, en toile de fond, vous décrivez l'exploitation certes du minerai, mais aussi des hommes de la région, une sorte d'esclavage moderne. Et ça, c'est vraiment la toile de fond du roman.
C'est la base, et en fait, même bon, en précision, je pensais m'occuper d'une seule de ces terres rares, d'un seul de ces nouveaux métaux qu'on appelle coltan. Et puis j'ai fait plein de découvertes à propos de lui, et en fait, j'ai réduit mes ambitions, et Vostok, c'est une espèce de répétition pour un autre futur ouvrage, j'espère, qui sera plus conséquent.
Vostok, tome 2.
Ah, peut-être pas, j'ai déjà le titre, mais je le dis pas, mais là, on laissera tomber l'Antarctique quand même.
Donc, en gros, ce que vous décrivez très bien et qui est vraiment une réalité, même si on a une très belle fiction ici, c'est ce commerce des terres rares et cette extraction, c'est un enjeu économique mondial impressionnant actuellement.
Ah bah ça implique toutes les nouvelles technologies, tout ce qui est écran, téléphonie mobile, ça, ça vient presque même à l'enjeu, j'allais dire, supérieur au pétrole, au diamant, parce que ça, forcément, ça va, comment dire, on va retrouver les grands clivages, comment dire, des grandes industries, et puis évidemment la Chine, qui est toujours, en ce moment, prend une place prépondérante sur les marchés économiques. Et une espèce de, bah, de nouvelle guerre qui se met en place, et puis encore une fois, c'est l'Afrique qui trinque.
Et donc, dans cette fournaise, dans cette firme, il y a un territoire qui s'est créé, donc on a dit ils ont chassé les Awasati, et il y a deux types donc de gens qui travaillent, les volontaires désignés, comme j'ai dit, les esclaves modernes, donc ceux qui sont vraiment au fond de la mine, et puis il y a tous ces hommes qui ont accepté de partir là-bas, et forcément quand on accepte de travailler dans un endroit comme ça, aussi isolé et aussi terrible au niveau des températures et de tout l'environnement, c'est forcément des hommes qui ont des casseroles au cul. Vous les mettez dans un endroit très restreint, en gros une bâtisse avec des chambres et une cantine. On a une espèce d'isolat géographique, un espèce d'isolat humain, et en fait vous disséquez ça un petit peu comme un entomologiste.
Parlant de casseroles, oui, pour les casseroles au cul, il y a de quoi équiper 3-4 cuisines par personne, à mon avis, bien. Alors, il faut que je fasse un petit flashback, puisqu'en fait, Vostok, c'est transposé de nos jours sur Terre le dernier scénario de mon dernier manuscrit de science-fiction des années 80 jamais publié. Donc ça expliquait un petit peu aussi déjà pourquoi des gens s'expatriaient à l'autre bout de la galaxie pour faire des boulots de fou. Alors non, à l'époque c'était des casseroles, on va dire, qui chauffaient toutes seules. Mm-hmm. Là il a fallu que je rajoute le gaz dessous. Et voilà comment ça s'est transposé. Et moi j'aime bien ce genre d'endroit justement, où les gens sont à la fois là par volonté, pas toujours choisis, mais ils doivent en fait danser entre le cul entre deux chaises de cuisine, bien sûr.
Forcément. Avec les casseroles pas très loin. Voilà. Et puis donc, dans cette ambiance, arrive en gros l'élément perturbateur, en la personne de Tania. En face, on va avoir un autre personnage, Tony, et avant de vous parler de ces, que vous nous parliez de ces deux personnages, juste un très court extrait. La présentation. Elle, Laurence, Tania Laurence, jeune femme au trait marqué, accusant la fin proche de sa prime jeunesse. Sa maturité s'annonce prometteuse. Ses yeux clairs ont la franchise d'un esprit ouvert, sans être trop naïf quant à la brutalité du monde. Elle a coiffé un broussard kaki à l'australienne sur ses cheveux blonds coupés courts. Lui, Donizzi, Tony Donizzi, solide gaillard qui ne parvient pas à discipliner sa tignasse brun foncé sous une casquette américaine à visière allongée. Il en possède plusieurs, mais sa préférée est celle-ci, décorée d'un écusson des Saints de la Nouvelle-Orléans, Louisiane. Sa maturité masculine est affirmée. C'est lui qui tient la barre. Tony, Tania Laurence et Tony Donizzi sont dans un bateau. Lequel va tomber à l'eau, ça, on va avoir le temps de le découvrir. Mais deux personnages, c'est pas deux jeunes perdreaux de l'année.
Pour une fois, j'ai pas fait le calcul sur les autres personnages, mais il se trouvait que, on va dire, le personnage masculin pouvait difficilement être un gamin. J'allais pas lui coller dans les pattes ni une cougar, ni sa petite cousine, donc il a fallu que je travaille effectivement sur des âges auxquels je suis pas trop habitué. Surtout du côté des filles, mais bon, j'espère que j'ai pas trop loupé le coup.
Non, je confirme. Ces deux personnages, ça va être en dehors de leur travail quotidien. Alors, j'ai oublié de dire, Tania Laurence, elle arrive, c'est pour faire une analyse, c'est une onusienne. Alors, c'est marrant parce que ça, ce livre, donc, est ce qui a été un jour un livre de science-fiction, et c'est vrai que onusienne, ça fait quand même habitant d'une autre planète.
Ça fait un peu vénusienne.
Voilà, exactement. Oh ben, elle la mériterait parce qu'elle est vraiment très très bien décrite. Et c'est en fait deux solitudes qui vont se rencontrer, ces deux personnages.
Ah ben ça c'est un thème que j'ai traité. Je suis pas le seul. C'est toujours intéressant. C'est un peu aussi le côté western. Soit l'étranger, soit l'emmerdeur qui débarque dans un endroit désert. Tout le monde le regarde de travers. Il y a toujours quand même quelqu'un pour lui faire un petit sourire. Ça c'est des situations que j'aime bien.
Oui, et puis là, ce qui est l'intérêt, c'est de casser un peu le code, parce que là, l'élément qui arrive, comme dans un western, c'est une femme. Certes, coiffée d'un drôle de chapeau, mais quand même, c'est une femme. Alors, très vite, on va rentrer dans, entre guillemets, ce qui va constituer l'enquête de Tania Laurence, enfin, tout au moins, plus exactement, la quête. C'est que elle va se retrouver en face d'un certain nombre d'indices, des baleines échouées. Alors, il y en a un autre, on va, quand on part dans les territoires, un escalier dans la falaise chez les Awazati. Et il va y avoir plein d'indices comme ça pour Tania, qui en fait va pressentir une catastrophe imminente. Mais la race humaine, elle est quand même très très aveugle à ce type d'indices, quand elle est confrontée en gros aux profits colossaux qu'il faut garder pour que cette firme reste à cet endroit-là.
En prenant, prenons une métaphore, il s'agit de travail. Disons que Tania est une inspectrice, comment dire, un inspecteur, je sais pas comment on dit, du travail, qui vient voir si tout va bien dans l'usine.
Oui, elle vient un petit peu voir les conditions de sécurité, voir un petit peu s'il n'y a pas trop d'esclaves, quoi, en fait.
Voilà, ce genre de choses. Et puis comme actuellement, je crois que l'avenir de l'humanité est quand même très très lié à l'écologie, c'est un personnage qui va s'inviter à la fête. Et généralement, les personnages qui débarquent à la fête, quand ils ne sont pas invités, sont rarement porteurs de bonnes nouvelles.
Oui, là, les nouvelles vont être très très mauvaises. Donc, il y a des gens qui vont un peu l'aider. Il y a des gens qui vont lui mettre beaucoup, beaucoup de bâtons dans les roues. Et elle va être obligée de se rendre compte que ça va être très dur de s'en sortir, finalement.
Ah ben ça, c'est vraiment... On retombe dans le principe de Polar, où les gens se débattent toujours... De préférence contre des ennemis plus forts, si on est sympa, on peut les faire gagner totalement, les faire gagner un petit peu. Si on est désespéré, ils perdent tout de suite.
Et si on est du côté romantique,
alors j'ai fait un cocktail de tiers un tiers, allez.
De tiers un tiers. Donc en fait, en gros, si on regarde par rapport à ce qu'on a décrit, la toile de fond, par rapport à ce qu'on a vu, donc ces deux personnages, en gros, on a ce côté roman noir où on a des drames humains, au milieu d'un drame social. Et c'est ce qui est intéressant finalement à décrire dans un roman noir.
C'est intéressant, surtout qu'on y rajoute, drame ne serait pas le mot, mais un drame naturel.
Oui, alors, ce qui est intéressant justement, c'est que le marasme socio-économique dans lequel ça a plongé la région, dans lequel se retrouve embringué pas mal de monde, ça, en fait, c'est en écho, c'est à côté d'un drame écologique qui peut arriver à tout instant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit là, finalement, quelque chose dont on a déjà pas mal parlé, mais les anciens, les indices, ils savaient les interpréter, peut-être le cerveau reptilien, peut-être simplement des gens qui avaient un petit peu plus de bon sens. Par contre, nous, au 21e siècle, on est devenus aveugles à tout ce genre de choses.
Je crois, hélas, que c'est un peu ça. J'écoute souvent les actualités. Il n'y a pas de quoi se réjouir, que ce soit économique, politique, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il y a énormément, hélas, de dégâts. Il y a des gens qui essaient de se faire entendre qu'on n'écoute pas. Il y a effectivement de vieilles mémoires qu'on ne veut pas entendre. Et là, moi, je pense, hors polar, hors livre, que dans les prochaines années, la nature va se charger de mettre tout le monde d'accord, très rapidement.
Mais comme ça... Ce qui est bête, c'est qu'il n'y aura plus personne, à mon avis, pour pouvoir le décrire et l'écrire. Mais bon, c'est pas très grave. On n'y sera plus là. Dans vos romans noirs, dans la plupart, il y a toujours des méchants, mais des pourris, des salauds. Mais vous prenez garde quand même de leur laisser toujours une part d'humanité. C'est le plus difficile à construire dans un roman comme ça. C'est-à-dire le fait que ces personnages, en particulier ceux qui travaillent pour la firme et ceux qui dirigent, il y a toujours à un moment donné, on sent une faille, on voit voilà une petite étincelle d'humanité qui subsiste quand même.
C'est plus difficile de faire les bons.
Ah oui.
Ah oui, c'est beaucoup plus difficile parce que les personnages sympas, les personnages positifs, les faire sans qu'ils deviennent mièvres, caricaturaux, bons samaritains et pour tout dire un peu chiant, ça c'est plus difficile. Les mauvais sont beaucoup plus faciles à faire, les mauvais 100%, là c'est tellement facile que ça n'a aucun intérêt. Oui. Donc, et puis dans la vraie vie, j'allais dire, il y a très très peu de gens complètement mauvais et puis ça c'est des trucs que j'aurais pas révélé, mais toujours mettre un petit truc sympa sur un personnage négatif, ça permet de rouler le lecteur dans la farine plus facilement à certains moments que je ne dévoilerai pas.
Non, c'est bien pour ça qu'on ne parle pas trop ni de la catastrophe écologique, ni de tout ce qui va arriver à cette toute petite communauté. Donc on va rappeler le nom de ce roman, et puis on va juste expliquer que dans le dernier chapitre, vous parlez de beaucoup de choses qui vous rappellent des bons et des grands souvenirs, que vous parlez beaucoup de musique, que vous parlez de cinéma, et puis d'un musicien français, d'un chanteur français, que l'on va écouter maintenant, qui s'appelle Hubert Félix Thiéfaine. Alors on a beaucoup hésité, il y avait Thiéfaine, et puis autre légende, pas français, il y avait Statu Quo aussi. Mais on a préféré Hubert Félix Thiéfaine, donc on va écouter un petit peu de l'ascenseur de 22h qui arrive vers 22h43. Jean-Hugo Pell, merci beaucoup. On rappelle le titre Vostok, c'est chez Rivage Noir, c'est le numéro 900. À très bientôt.
À très bientôt.
Et merci de votre présence, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Attention, 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 la concierge se trouve actuellement dans l'escalier. Mais comme elle ne le sait pas, vous êtes priés de ne pas la déranger. J'arriverai par l'ascenseur de 22h43. En provenance de Babylone. Les quais seront encombrés de pendus, laissant claquer leurs mâchoires dans le vent. En guise de discours de bienvenue, en guise de discours de bienvenue, j'arriverai par l'ascenseur de 22h43 en provenance de Babylone. Je ne connaîtrai rien de tes habitudes. Il se peut même que tu sois décédé. Mais je demanderai ta main pour la couper. Mais je demanderai ta main pour la couper. Attention, attention, sur le palier numéro 2, l'ascenseur de 22h43 en provenance de Babylone est annoncé. Veuillez dégager le vide ordure, s'il vous plaît, et ne pas laisser les enfants s'amuser avec les fils à haute tension. Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir. J'arriverai par l'ascenseur de 22h43 et je viendrai relever le compteur de ton ennui. Il te faudra sans doute changer de tête et puis brancher ton cerveau sur ton cœur. Rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne sera plus jamais comme avant.
Eh ben c'est sûrement par cet ascenseur que Hubert Félix Thiéfaine est arrivé dans la chanson française, puisque c'est extrait de son premier disque.
D'accord. Voilà, je l'ai juste cité. On a parlé un petit peu de la solitude des deux personnages principaux. Donc, au tout début du roman, une citation, « We are all born to die alone », c'est-à-dire « Nous sommes tous nés pour mourir seul ». Donc je vous laisse découvrir, c'est de Paul Williams cette citation.
Et Paul Williams dans The Phantom of the Paradise.
Voilà, film, j'ai dit, hein, dans ce roman on a énormément de références. À vous de les trouver, alors il y en a qui sont assez évidentes, sur le cinéma, sur des séries télé. Par exemple, je vous dis comme petit truc, le nom du personnage principal, Tony... On ne va pas en dire plus. Et puis des références. Denis Izzy. Voilà. Et des références aussi sur la musique. Donc, Vostok, Jean-Hugo Pell, chez Rivage Noir. Mais on a aussi parlé de Michael Mention, Saltan pour le pays, chez les mêmes éditeurs. Et puis, Jacques, tu nous as parlé de ton roman.
Xavier-Marie Bonneau, le premier homme chez Acte Noir. Et, bien sûr, Andrea Camilleri, L'âge du doute chez Fleuve Noir.
Voilà, quatre romans, tous très différents les uns des autres, pour que vous nous attendiez jusqu'à la prochaine fois, chacun dans votre coin, avec un bon bouquin. Au revoir.